Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
Le cardinal Fridolin Ambongo demande l'implication du pape François pour restaurer la paix en RDC. L'archevêque de Kinshasa l'a dit hier à Kinshasa au cours de la célébration eucharistique organisée en faveur de la paix et la réconciliation en RDC ainsi que le rétablissement du Saint-Père. SOS du directeur général du centre médical Diamant à Lubumbashi. Les enfants souffrant des maladies cardiaques congénitales sont en danger dans l'attente de l'intervention chirurgicale à cœur ouvert. Déjà 2 décès sur 18 malades. L'hôpital a besoin de l'aide financière du gouvernement et des bonnes volontés. Chaque chirurgie coûte plus de 30 000 $, indique le DG de Diamant. Vous l'entendrez. Et puis, une nouvelle structure de la société civile a vu le jour récemment à Bukavu. Il s'agit du réseau Elikia. Sa devise, le changement de mentalité pour un Congo nouveau. Pour en parler, nous recevons Delphine Amuto, coordonnatrice du réseau Elikia au Sud Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Le cardinal Fridolin Ambongo sollicite l'appui diplomatique du pape François aux actions du président Félix-Antoine Tshisekedi pour amener la paix dans l'Est de la RDC. Le prélat catholique l'a dit hier dimanche à Kinshasa au cours de la célébration eucharistique organisée à l'esplanade du Palais du Peuple pour la paix et la réconciliation en RDC ainsi que le rétablissement du pape François. Dans cette célébration qui s'est déroulée en présence du secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Ambongo a cité le M23, la CODECO et l'ADF, parmi les groupes armés qui font le plus de dégâts sur terrain. Il a appelé à l'éradication rapide de ces groupes armés, y compris tous les groupes Maïmaï. Fridolin Ambongo, dans cet extrait proposé par Alain Rumushinj.
La vérité, et c'est ce que nous craignons, si tous ces groupes armés ne sont pas rapidement maîtrisés, le Congo court tout droit vers l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de notre temps. Voilà pourquoi, Éminence, nous demandons l'implication du Saint-Père François pour la paix au Congo à travers le soutien à la diplomatie de bon voisinage menée par notre président, son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État congolais. Ce dernier est en quête de la paix et de la cohésion avec nos voisins, singulièrement avec le Rwanda, qui apporterait un soutien militaire au groupe armé M23. Nous en appelons ainsi à l'unité de notre peuple.
Le cardinal Fridolin Ambongo a appelé le peuple congolais à bannir la xénophobie et le discours de haine à l'endroit des populations dites rwandophones. Parlant du pape François justement, il a adressé un message vidéo samedi aux populations de la RDC et du Soudan du Sud. Je le cite, « Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité qu'elle endure, particulièrement dans l'est du pays où les affrontements armés se poursuivent, causant des souffrances innombrables et dramatiques, exacerbées par l'indifférence et la complaisance de beaucoup », fin de citation. Le souverain pontife exprime ainsi son regret d'avoir été contraint de reporter sa visite dans ces deux pays. Il appelle surtout les responsables politiques à tourner la page pour ouvrir des nouvelles voies de réconciliation et de pardon, de coexistence sereine ainsi que de développement. On écoute le pape François dans cet extrait proposé par Alain Rumushinj.
Je voudrais vous dire que je vous porte plus que jamais dans mon cœur, surtout en ces semaines. Je porte en moi dans la prière les souffrances que vous éprouvez depuis trop longtemps. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité qu'elle endure, particulièrement dans l'est du pays, où les affrontements armés se poursuivent, causant des souffrances innombrables et dramatiques, exacerbées par l'indifférence et la complaisance de beaucoup. Chers amis congolais et sud-soudanais, vous avez tous une grande mission, à commencer par les responsables politiques, celle de tourner la page pour ouvrir des nouvelles voies de réconciliation et de pardon, de coexistence sereine, de développement. C'est une mission qu'il faut assumer en regardant ensemble vers l'avenir, vers les nombreux jeunes qui peuplent vos terres luxuriantes et blessées, les comblants de lumière et d'avenir. Ils rêvent et méritent de voir ces rêves se réaliser, de voir des jours de paix. Pour eux en particulier, il faut déposer les armes, vaincre les rancunes, écrire de nouvelles pages de fraternité.
Par ailleurs, le pape François a appelé hier les Congolais à œuvrer pour la paix et la réconciliation. Il a lancé cet appel au cours de la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre à l'attention de la communauté congolaise de Rome. De nombreux fidèles catholiques du monde ont pris part à cette messe dominicale en communion avec les Congolais. Des détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans son homélie du jour, le souverain pontife a invité les Congolais à témoigner de la paix et de la proximité de Dieu, spécialement là où sévissent la haine et la cupidité. La messe à rite zaïrois, à l'intention de la communauté congolaise de Rome, s'est déroulée en même temps que celle dite à Kinshasa par le cardinal secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin. Le pape a également recommandé aux Congolais de se présenter en tout lieu comme les ambassadeurs de la paix, parce que, ajoute-t-il, un chrétien apporte toujours la paix et celui qui attise la rancœur, incite à la haine et court-circuite les autres ne travaillent pas pour Jésus. À l'occasion, le Saint-Père a également appelé les Congolais à rejeter l'arrogance et à se rendre dans le monde comme des agneaux au milieu des loups, mais à ne pas faire preuve de naïveté. Le pape a en outre dénoncé ceux qui vivent dans la force ou dans l'avidité d'argent et des biens qui causent aussi tant de mal à la RDC. À la fin de cette messe, la sœur Rita Mboshu, théologienne congolaise de la Congrégation des Filles de Marie, a rappelé au pape que le peuple congolais continue de l'attendre à bras ouverts.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, les autorités coutumières des groupements de Jomba, Bweza et Busanza s'inquiètent du mutisme du gouvernement congolais et des autorités provinciales face à la détérioration et l'aggravation de la situation humanitaire des milliers de familles des déplacés dans le territoire de Rutshuru. Ces responsables affirment que la situation de ces personnes mérite du gouvernement un regard particulier au regard des souffrances que traversent ces familles dans leur site d'accueil. L'un d'eux, le chef de groupement de Jomba, Mwami Kachuki Jackson, explique au téléphone de Gabriel Wamenya.
Vraiment, je suis inquiet des silences, normalement, parce que les gens souffrent énormément. Il y a des mamans qui accouchent sous la belle étoile, dans des bâches, sans que le gouvernement les prenne en charge. Que cette population de l'État ait des laissés. Nous, en tant que les autorités coutumières, vraiment, nous sommes inquiets. Nous sommes abandonnés parce que le gouvernement central n'agit pas. Même provincial n'agit pas. Nous lançons ces messages aux autorités. Qu'ils prennent conscience, normalement, de notre population qui continue toujours à souffrir, de notre population qui continue toujours à passer la nuit sous la belle étoile, de notre population qui continue toujours à souffrir. Jusqu'à quand maintenant? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter tout ce qu'on est en train de traverser? Aucune ONG locale, aucune ONG internationale, aucune aide du gouvernement qu'on a reçue pour le moment. Les autorités se taisent, vraiment raison pour laquelle je lance ce message pour que les déplacés qui se trouvent dans les différents groupements dont je venais de citer, qu'ils puissent être assis. Il y a des enfants qui tombent malades, il n'y a aucune aide de médicaments, aucune aide de nourriture. Nous assistons aussi à des gens qui meurent comme ça. Voilà le message que je lance en tant qu'autorité locale. Du groupement de Jomba.
Contactez le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, le général de brigade Sylvain Ekenge, affirme que la question des déplacés et autres questions y afférentes relèvent de la compétence du ministère des Affaires humanitaires sans autres détails. Du côté de l'Ituri, plus de 200 personnes déplacées, dont des enfants ainsi que des femmes enceintes, passent nuit à la belle étoile sous des intempéries. Cela se passe au site de Godo 3 dans la région de Nizi, territoire de Djougou. Situation consécutive à un incendie samedi qui a ravagé 39 de leurs cases et blessé 6 personnes. Les gestionnaires de ce site ainsi que la coordination nationale de l'association des personnes vulnérables et déplacées de l'Est qui a effectué une visite hier dans la région demandent au gouvernement d'accélérer le processus de paix avec les groupes armés pour permettre à ces déplacés de retourner dans leur milieu d'origine. Le point avec Ezekiel Mousalia.
Cette catastrophe survenue la nuit de vendredi à samedi a surpris les déplacés du site des Godo 3 situé dans la région des Nizi à plus ou moins 30 km au nord de la ville de Bounia dans le territoire des Djougou. Selon des témoins, les feux seraient partis d'une hutte dont les propriétaires avaient oublié une marmite sur un foyer allumé pour embraser d'autres habitations. Au total, 39 cases complètement calcinées et 6 personnes blessées dont 2 femmes qui tentaient de maîtriser les feux. Elles ont été admises dans une formation médicale de la place. Désiré local secrétaire du site des déplacés des Godo 3.
Une maman préparait de quoi vivre, de faire et habiller sa hutte comme c'était à Paris. Nous demandons à faire intervenir en aide.
Pour sa part, le coordonnateur national de l'association des personnes victimes des troubles et déplacés de l'Est en RDC qui a effectué une visite sur les lieux du drame indique qu'à ces jours, 40 ménages passent nuit à la belle étoile et d'autres sous les décombres. Innocent Losigo.
Il y a les enfants et des femmes enceintes qui passent nuit à rien. Que l'État congolais puisse instaurer l'autorité de l'État afin que ces déplacés puissent rentrer.
Signalons qu'il s'agit du deuxième incendie dans ces sites des vulnérables après celui du 4 janvier de l'année dernière qui avait causé mort d'homme. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Parlons à présent de ce cri de détresse du directeur général du centre médical Diamant à Lubumbashi. Les enfants souffrant des maladies cardiaques congénitales en attente de l'intervention chirurgicale à cœur ouvert sont en danger. Deux d'entre eux sont même décédés. L'hôpital est à la recherche des moyens financiers pour faire revenir les chirurgiens afin de sauver les vies de ces enfants qui devront être soignés gratuitement. Le DG de Diamant, Karim Tajdine, explique la situation au micro de Jean Gandou.
En mars 2022, la Fondation Centre Médical Diamant a subventionné 16 enfants démunis parmi les 18 qui ont été opérés par des chirurgies cardiaques pédiatriques à cœur ouvert au Centre Médical Diamant Lubumbashi. Tous ces enfants se portent très bien à présent et ont maintenant une nouvelle chance à la vie. Il y a encore beaucoup d'enfants qui attendent une opération chirurgicale. Nous avons malheureusement eu rapport que au moins deux des enfants qui étaient sur la liste d'attente sont déjà décédés. L'urgence s'impose. Plus on attend, plus d'enfants congolais meurent. La Fondation CM Diamant a donc besoin de l'aide financière du gouvernement et des opérateurs économiques et de tout individu qui voudrait sauver la vie de ces jeunes enfants âgés de 4 mois et plus. Chaque chirurgie nous coûte plus de 30 000 $ américains. Contactez la Fondation par email à fondation@cmd.cd ou par téléphone au 090-777-7783. Contactez-nous aussi si vous connaissez des enfants avec des maladies cardiaques congénitales.
Direction le Sud Kivu, reprise du trafic sur la route nationale numéro 5 entre Bukavu et Kamanyola. L'Office des routes a mis en service un nouveau pont à Nyangezi dans le territoire de Walungu. Cela en attendant des gros moyens pour la réfection de l'ancien pont qui s'était effondré en juin dernier. Emmanuel Elameji Wakabedi, reportage.
C'est un pont provisoire d'une capacité de 25 tonnes que l'office de route vient de placer sur la rivière Tchianda à Nyangezi entre Bukavu et Kamanyola, ce qui permet ainsi la reprise du trafic sur la RN5 coupée il y a un mois suite à l'effondrement de l'ancien pont au même endroit. C'est grâce au fond du Foner que l'office de route a construit ce pont métallique provisoire. Nos sources nous renseignent que le gouvernement central aurait déjà autorisé la sortie de fonds pour les gros travaux en cet endroit de la RN5, mais que c'est le Foner qui tarde à s'exécuter. En dehors de ce pont de Nyangezi sur la RN5, il y a aussi environ 40 km à réhabiliter qui sont en délabrement avancé entre Nyantende et Kamanyola. Cette route RN5 est l'unique voie de communication entre Bukavu et le Sud. Elle favorise l'approvisionnement en produits venant du Grand Katanga, du Burundi et de la Tanzanie en passant par Uvira. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Et dans la province de la Tchopo, les usagers des engins motorisés se plaignent du coût élevé du carburant à la pompe. Un litre d'essence est vendu à 3500 voire 3750 francs au lieu de 2800 francs congolais fixés par le secrétariat général du ministère de l'économie nationale. Le président des importateurs des produits pétroliers en provenance de l'est du pays justifie cette situation par le manque des subventions de l'État. Reportage de Jacques Moukonkolé.
La ville de Kisangani est approvisionnée en produits pétroliers à partir de deux voies, l'ouest et l'est de la RDC, alors que les importateurs à partir de l'ouest vendent au prix officiel, soit 2800 francs congolais un litre d'essence, ceux tournés vers l'est vendent plutôt à 3500, voire 3700 francs congolais. Les usagers dénoncent ce décalage de prix dans une même ville. Témoignage.
On se demande pourquoi ce prix-là n'est pas respecté. Peut-être il n'y a pas les suivis. Bon, nous nous posons la question de savoir pourquoi le gouvernement ne fait pas les suivis.
Et les prix, c'est cher. Pourquoi les vendeurs du carburant ne respectent pas les prix fixés par le gouvernement? Nous voulons que le gouvernement suive cette situation de près.
Le président des importateurs des produits pétroliers de l'est du pays, type Tambwe le Congo, justifie cet état des choses par le manque de subventions de l'État.
Ceux qui amènent les produits à partir de l'Est et ne sont pas subventionnés, c'est comme ça que nous ne pouvons qu'être obligés de fixer les prix réels. Et c'est comme ça, d'autres vendent à 2800 francs et d'autres vendent à 3500 francs.
Toutefois, il espère que le gouvernement accédera un jour à leur demande, celle de bénéficier aussi des subventions, comme cela est le cas avec leurs collègues opérant à l'ouest du pays. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le 61e sommet de la CEDEAO a pris fin dimanche 3 juillet à Accra, au Ghana. L'organisation ouest-africaine s'est penchée sur ses mesures de rétorsion à l'encontre du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée après la prise du pouvoir par des juntes. Les chefs d'État de la CEDEAO ont considéré que les progrès réalisés par le Mali ces dernières semaines justifient une levée partielle des sanctions. Bamako a notamment adopté une nouvelle loi électorale et annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Les sanctions incluaient la fermeture des frontières, le gel des avoirs maliens et la suspension des échanges commerciaux et financiers. Tout cela va pouvoir reprendre. Les ambassadeurs de la CEDEAO qui étaient en poste à Bamako et qui avaient été rappelés vont pouvoir aussi revenir dans la capitale malienne.
L'invité.
Elle nous vient du Sud Kivu. Une nouvelle structure de la société civile est implantée à Bukavu depuis le 30 juin dernier. Le réseau Elikia s'est vu une plateforme de changement de mentalité pour un Congo nouveau. Mais comment cela est-il possible? Réponse à cette question et à bien d'autres avec la coordonnatrice du réseau Elikia au Sud Kivu, Delphine Amuto. Notre invitée répond aux questions de Emmanuel Elameji.
Madame Delphine Namuto Nabintu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
C'est quoi Elikia? Est-ce un parti politique? Est-ce une structure des jeunes? C'est quoi Elikia? Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Alors, Elikia, c'est un réseau qui regroupe des Congolaises et Congolais qui sont acquis à la cause du changement pour un Congo nouveau. Et donc, c'est une organisation non gouvernementale et qui travaille sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Et vous avez attendu le 30 juin pour lancer les activités au Sud Kivu. Pourquoi?
Pour le moment, nous devons dire que le réseau est en train de s'implanter et à travers déjà une dizaine des provinces de la RDC. Et il était question pour le Sud Kivu, comme on vient de trouver des acteurs qui doivent coordonner cette structure, de lancer maintenant officiellement les activités à travers la province du Sud Kivu.
Alors, c'était quoi cette journée-là? Qu'est-ce qui s'est passé d'abord comme activité principale?
Cette activité, nous l'avons nommée matinée de réflexion à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Nous avons pensé qu'il était important de procéder un bilan sur la situation de la RDC sur tous les plans, économique, bonne gouvernance politique et sociale, le rôle de la femme et de la jeunesse dans l'évolution de la RDC depuis son accession à l'indépendance. Nous avons montré que Elikia, comme plateforme, une organisation ou un réseau d'éveil de conscience, vient comme une alternative pour essayer de voir comment tirer le Congo des problèmes qui les gangrènent.
Une dynamique de changement, vous dites, c'est quels objectifs vous poursuivez dans Elikia?
Alors, Elikia, c'est un réseau qui veut travailler beaucoup plus sur l'éveil de conscience individuelle mais aussi collective. Et le problème et le grand problème qui se pose aujourd'hui au Congo réside dans l'homme congolais lui-même. Et donc, nous voulons investir dans l'homme congolais pour espérer que nous pouvons créer un nouveau Congo sur base des valeurs positives.
Comment vous allez vous y prendre? Une alternative, oui. Quelles sont les nouvelles stratégies que vous allez adopter pour pouvoir changer les choses?
Voilà, Monsieur Elameji, comme je te l'ai dit, Elikia a vu le jour, cela fait déjà 2 ans. Et au finish, on s'est demandé, est-ce qu'il n'y a pas des hommes valables dans ce pays? Est-ce que on doit se focaliser uniquement sur des plaintes en se disant que nous sommes désespérés, il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas d'hommes compétents? Nous pensons que nous devons réfléchir autrement. Les Congolais sont forts. Il y a des Congolais qui peuvent travailler. Il y a des Congolais qui sont conscients que la performance, c'est une valeur qu'ils doivent porter partout où ils sont. Et ils font leur travail comme il se doit. Alors, il est question pour nous de sensibiliser la communauté congolaise, d'éveiller la conscience de chaque Congolais individuellement et pour atteindre la conscience collective. C'est ça la stratégie que nous allons mener sur le plan de la sensibilisation d'éveil de conscience. Si on ne le fait pas aujourd'hui, qui le fera demain?
Quelle est la vision de Elikia pour ça? Vous pensez que dans combien de temps vous pouvez atteindre ces objectifs?
Nous allons nous étendre sur tous les aspects, Monsieur Emmanuel, que nous pensons que nous allons former des hommes valables, des hommes qu'il faut dans la gestion de notre communauté congolaise. Le Congo, c'est notre patrimoine. Et aujourd'hui, si vous vous appelez Congolais, donc, vous devez vous dire tous, nous avons un destin commun. Et le destin du Congo dépend de tout ce que nous ferons, de son histoire. Et nous voulons appeler chaque Congolais à prendre conscience de sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe. De nous réengager, à nous dire que construire un Congo, tout est possible et chacun doit le faire pour espérer que le Congo doit constituer, n'est-ce pas, le patrimoine non seulement pour les Congolais mais aussi à toute l'humanité.
Madame Delphine Amuto, merci.
La coordonnatrice du réseau Elikia au Sud qui vous répondait aux questions de Emmanuel et la Mégie. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj, Alain Goya, la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.